Vous m'en direz des nouvelles.
Amélie Beaucourt,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. C'est sous le ciel gris et bas du nord de la France, au pied des montagnes de charbon, dans les entrailles irrespirables de la terre, que notre invité du jour a posé sa machine à écrire. Là où le soleil est descendu dans le cœur des petites gens, et là où on entend l'accent de ces gueules noires venues d'autres montagnes, celles de l'Atlas, dans le sud du Maroc. 78 000 d'entre eux ont quitté leur pays pour venir user leurs bras et leurs poumons dans la poussière et l'obscurité des mines. Pour une société gourmande en énergie qui dévore le sol, l'ouvrier et toute sa famille. Samira El Hayachi publie « Le ventre des hommes » aux éditions de l'Aube et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Samira El Hayachi.
Bonjour Amélie.
Alors c'est avec ces sirènes de police, ces hommes en bleu et le cliquetis des menottes que vous accueillez les lecteurs de votre roman. Le personnage principal, Anna, est enseignante dans une école primaire. Elle vient de commettre un geste que le reste de votre roman va tenter d'expliquer en nous plongeant dans son histoire. Une histoire indissociable de celle de son père, Mohamed, et indissociable aussi de celle du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, tout là-haut, entre la Belgique et la mer du Nord. Une région dans laquelle vous êtes née, comme Anna et comme moi. Quelques années et quelques kilomètres seulement nous séparent. Alors ces maisons en briques rouges qu'on appelle les corons et qui s'étalent sur la couverture de votre livre sont assez familières, je dois dire. C'est là que tout a commencé pour Anna. Comment est-ce qu'on pourrait décrire aux auditeurs ce que sont ces corons et l'atmosphère qui y règne à travers les yeux d'un enfant ?
Quand on est enfant, on se rend pas compte que les corons c'est une atmosphère particulière. Il faut avoir grandi et puis se retourner sur son enfance pour découvrir que c'est quelque chose d'assez singulier et de particulier. Déjà une série de petites maisons de briques, effectivement, toutes collées les unes aux autres, et puis un paysage plat, ce qui fait que on sait exactement tout est à vue. On sait ce qui se passe tout autour, et ce qui fait que quand on habite dans cette petite cité, il y a une promiscuité avec les habitants et les vies se mélangent finalement. Donc je pense que la première des choses, c'est un peu cette atmosphère d'un vivre ensemble imposé, parfois pas agréable, mais du coup qui force les habitantes et surtout les enfants au bricolage, à la ruse, à l'amusement et à porter beaucoup de lumière aussi.
Et qu'est-ce qu'elles hébergeaient, ces maisons ? Pour qui est-ce qu'elles ont été construites ?
Alors, ces maisons, historiquement, elles ont été bâties et construites par l'industrie. C'est pour des raisons économiques. On a construit des cités et on a regroupé des travailleurs qui allaient travailler dans les mines de charbon, dans des petites maisons de briques. Et voilà, donc ce sont des vagues successives de Polonais, d'Italiens, d'Algériens, de Marocains, enfin... Et puis une personne qui était là depuis longtemps aussi, hein, française, qui se sont installées. Mais c'est vrai que c'est l'homme et c'est l'économie qui ont façonné ce type d'habitat.
Et qui ont rassemblé du coup ces gens qui venaient de Pologne, d'Italie, d'Algérie, vous l'avez dit, et du Maroc ensuite. Comment est-ce qu'ils cohabitent tout ce petit monde ? Est-ce qu'ils se mélangent bien ou est-ce qu'il y a une méfiance envers celui qui vient d'ailleurs ?
Non, c'est comme dans toutes les régions du monde. Je pense que quand les misères sont collées les unes aux autres, bon an, mal an, il faut bien faire avec, il faut bien vivre. Donc la chose intéressante, c'est que du point de vue de l'enfance, en tout cas, c'est un bassin de langue avant tout. Du point de vue d'adulte, tout simplement des gens qui se retrouvent dans la même galère, hein, à des fins d'abord économiques, de travail et autres. Mais c'est aussi là que vont se développer des solidarités. Mais peut-être d'abord parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas un choix, la solidarité. Je pense que ça arrive à la fin des fins parce que on arrive à un moment d'existence où, voilà, il y a un accouchement, il faut aller déposer la dame en face parce qu'il n'y a pas de voiture, etc. Voilà. Donc, ce qui me touche beaucoup dans ces cités-là, c'est le soin au collectif. Le fait qu'il y a, sans cesse une culture, une habitude, mais forcée par le destin, hein, à prendre soin de l'autre et du collectif.
C'est un peu paradoxal de se dire que moins on en a et plus on le partage.
Et pourtant c'est un peu ce qui se passe effectivement. Et c'est vrai que ce mot solidarité dont vous avez parlé, c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle du Nord, quand on dit je viens du Nord, les gens disent ah j'adore les gens du Nord, comme on dit ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase?
C'est bien pour le tourisme déjà. Ça donne envie aux gens de venir parce que c'est vrai que le soleil est pas très sexy dans le Nord. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec cette histoire qui est difficile. Il y a aussi beaucoup de dureté, donc qui dit dureté dit violence aussi. Enfin voilà, c'est pas si rose que ça. C'est vrai que c'est compliqué. En revanche, je pense que cette promiscuité avec des parcours migratoires, des gens qui venaient récemment de village avec une façon d'être avec l'autre qui est vraiment très particulière, vraiment un sens du collectif, de faire en sorte que ça fonctionne, je pense que c'est quelque chose de vrai. Et puis la force de l'autodérision, je pense, de ces gens-là, tellement c'est la misère, on en rit. Et puis on n'en a pas parlé encore, je pense qu'on va peut-être en parler après, mais l'humour de la misère, c'est-à-dire c'est tout ce qui reste. Donc voilà, et puis avec la force du patois, du picard et des images qui surgissent de ces angles-là, ça aide.
Alors quand on pousse la porte d'une de ces petites maisons, de celle des Katib, du coup, la famille de votre roman, qu'est-ce qu'on trouve? À quoi ça ressemble à l'intérieur?
Alors, donc déjà, il y a un petit jardinier à l'avant, parfois c'est à l'arrière, mais c'est quelque chose de très spécifique, hein, aux maisons décorantes, il y a toujours un extérieur. Et puis ensuite, donc quand on entre par une petite porte, il y a une cuisine toute petite, avec une cuisinière qui était chauffée à l'époque au charbon, puis une petite salle à manger. Petite, mais dans l'enfance, ça paraissait immense, c'est ça qui est très étonnant. Un salon et puis deux chambres à l'étage.
Et tout le monde dort dans ces deux chambres. Et la famille Katib a combien de membres?
Ah ben il y a 8 personnes, il y a 6 personnes qui dorment dans cette maison là, mais il y a toujours beaucoup de monde. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait il y a 18 personnes, peu importe le nombre, il y a toujours du monde dans cette maison là. C'est ça qui est incroyable.
Alors Anna, votre personnage principal, elle grandit rue Georges Bizet, c'est dans une commune à côté de Lens. L'une des nombreuses rues dans lesquelles vous emmenez vos lecteurs, Samira El Aïchi, car les 7 chapitres qui composent le roman portent justement des noms de rues. Georges Bizet, Elsa Triolet, Bonaparte. Qu'est-ce qu'ils évoquent ces noms de rues pour Anna? Pourquoi est-ce que vous avez construit son parcours de vie en fonction de ces rues?
C'est incroyable d'habiter dans un lieu, sur un territoire donné, qui porte un nom, qui nous est familier, mais parfois on sait même pas, on connaît même pas la biographie de ce personnage, hein. On sait que c'est quelqu'un d'illustre, on sait pas trop, parfois il y a une plaque avec une indication de naissance, etc. Et pourtant ce personnage-là, c'est l'adresse, c'est-à-dire c'est l'endroit où on demeure. C'est quelque chose de très important pour une famille qui vit l'exil que d'arriver sur un territoire et d'avoir un nom de rue. Donc j'avais très envie de marquer chaque chapitre effectivement par un nom de rue parce que finalement c'est un peu comme un personnage, un ami qui veille sur l'histoire familiale, en tout cas qui va lui donner peut-être une couleur ou une musique. Ça démarre par la rue Georges Bizet. Voilà, j'avais envie de faire aussi un petit clin d'œil à tous ces illustres personnages qui sont très, justement, très éloignés de l'histoire de la famille Katib. Et c'est aussi la confrontation, la rencontre quand on vient en exil avec une autre culture qui est le pays d'accueil. Et on se dit, mais c'est qui Bonaparte? C'est qui Georges Bizet? Moi, je les connais pas. Et voilà, j'ai envie de faire ça.
Il y a un autre nom qui revient souvent, c'est celui d'Émile Zola. On aura l'occasion d'en reparler après. C'est le nom de l'école d'Anna. Alors, elle est très bonne élève, même. Elle est la première de sa classe. Ça lui permet de s'évader de son quotidien. Un temps, en tout cas, puisqu'après, la vie dans les corons commence à lui peser. Alors, il faut dire que vous qui avez grandi à Lens, vous savez que c'est pas une ville qui est franchement très sexy pour un ado. Peut-être seulement pour ceux qui aiment le foot. Hein, vous évoquez justement cet amour pour le Racing Club de Lens. Qu'est-ce qui fait que ça met autant de paillettes dans les yeux des minots, comme vous écrivez? C'est la seule chose qui fait rêver à Lens? Moi, je pense que c'est en France et même dans le monde, les livres sont jaloux du football. Ils arrivent à faire quelque chose que personne n'arrive à faire. C'est incroyable. Cette joie, ce sentiment du collectif, et puis cette catharsis par le foot, hein, faire la guerre à l'autre sans vraiment faire la guerre. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent autour du football. Et puis Anna reste très très en dehors de ça parce qu'elle elle trouve un espace dans la lecture et dans les livres. C'est vrai qu'elle regarde ça en disant mais finalement ça change rien à nos vies que le RC Lens gagne ou perde. Enfin nous on s'en fout.
On est toujours coincé à Lens, elle dit exactement. Mm-hmm. Alors elle trouve d'autres façons de s'évader.
La télé, les Champs-Élysées, les étoiles qui scintillent dans l'écran. C'est là que je veux être. C'est là que je veux aller. Tout le monde a l'air tellement heureux. Tout le monde est tellement beau, parfumé avec du gel dans les cheveux. Tout le monde est bien habillé. J'aimerais tellement faire partie de leur famille. J'aimerais tellement leur ressembler. J'aimerais tellement avoir des yeux lisses, des cheveux beaux et soyeux comme elles. Isabella Gianni, Stéphanie de Monaco, Lady Diana, alors que toutes les femmes autour de nous sont grosses et déclassées. Et puis ces femmes autour de nous, ce ne sont jamais des femmes, ce sont toujours des mères, avec du ventre et des mouchoirs, des torchons, toujours des chiffons sales sur elles. À part Fayrouz, Warda ou Om Kulthoum, que mon père écoute comme en secret dans la voiture. La cassette tourne, il regarde loin devant le pare-brise, il ne regarde pas la route. Il regarde autre chose avec les yeux qui brillent comme deux olives noires que je ne vois pas. À part ces deux photos-là, sur la jaquette et ces voix venues d'une époque finie. À part les flashs de films en noir et blanc, avec des égyptiennes qui montrent leur ventre et dans ce milieu de moustachus, des films VHS que ma mère regarde en cachette avec les voisines quand les pères sont à la mine, à part ça, je ne connais pas de femme arabe. Je me retrouve la tête en arrière, dans un salon de coiffure pour dames, chez Monique, en haut de la mairie, avec ma petite monnaie posée sur le comptoir. Elle me dit qu'elle est vraiment désolée, qu'elle ne sait pas comment faire. La brosse s'accroche dans mes cheveux. Elle ajoute qu'elle ne sait pas faire avec une crinière comme ça. Ça va abîmer sa brosse et son peigne en bois, qu'elle a trop de clientes et qu'elle y passerait trop de temps. Et qu'elle est vraiment navrée, mais qu'elle ne peut pas me prendre, qu'elle a plein de permanentes à faire. Tiens, reprends ton argent, gamine.
Samira El Ayachi, ce qu'on a brièvement évoqué tout à l'heure, mais qui est une dimension clé de votre roman, c'est que les parents d'Anna sont marocains. Ils viennent du sud du Maroc, de la province de Zagora, il me semble, plus précisément. Ils sont arrivés en France dans les années 70. Et donc, qu'elle grandit entre une multitude de cultures différentes, celle de la maison, du père, de la mère, celle du quartier, celle de l'école. Comment elle s'y retrouve là-dedans ?
Comment elle s'y retrouve, c'est ça, justement la surprise, l'inattendu, c'est d'arriver, c'est de venir d'un endroit et puis par le biais de l'exil se retrouver ailleurs, mais par le biais de la petite télé, d'autres mondes arrivent encore.
Et vous parliez tout à l'heure des langues, là, c'est assez flagrant. Il y a celle de la maison, l'arabe du père qui est l'arabe dialectal du Maroc, l'amazigh de la mère aussi. Puis petit à petit, la langue française qu'elle découvre à l'école, le dictionnaire, le parler plus académique, mais aussi le ch'ti, et puis le polonais, l'italien, de toutes ces chansons. Quel est son rapport à toutes ces langues, Anna ? On a l'impression qu'elle essaye de les oublier petit à petit, de se tourner vers celles qui les intéressent.
Oui, il y a l'oubli pour Anna, mais je pense que c'est un oubli collectif, un oubli dramatique aussi, qui est l'oubli des langues maternelles, l'oubli de la langue maternelle, qui est laissé de côté, oublié dans un tiroir. Et pourtant, c'est absolument terrible, puisque pour Anna, comme pour moi d'ailleurs, la langue française est apprise à l'école. Et vous vous rendez compte, on arrive au monde avec cette langue-là, c'est-à-dire avec un imaginaire, avec une structure de pensée, avec tout un monde, des tas de références qui sont laissées de côté, oubliées, peut-être même méprisées, j'ose dire le mot. Quel regard on porte sur ces langues-là et donc sur ces gens, sur ces hommes et ces femmes-là qui parlent cette langue-là. Moi, voilà, j'étais très intéressée à me poser cette question-là et Anna, à un moment donné, à cette phrase-là, elle dit les langues étrangères, langues familières, le butin des guerres qu'on n'a pas eu à faire.
Il y a un mot tout de même qui la suit dans tout le roman, qui vient du berbère de sa maman, c'est celui de la lune. Est-ce que vous pourriez nous le prononcer ?
Ayour.
C'est un astre qui tient une place toute particulière dans sa vie. Pourquoi ?
Mais déjà, il faut savoir que dans la langue amazigh, Ayour est masculin. Donc c'est un garçon, vous voyez,
nous, un lune.
Voilà, un lune. Et nous on y met tout un système plutôt féminin autour de la lune, hein, qui va représenter la femme, les cycles, etc. Alors que voilà, on traverse la Méditerranée ailleurs, donc on est vraiment sur un autre système de représentation. Et donc c'est un peu son amoureux secret, un peu celui qu'elle attend la nuit parce qu'elle a le droit de sortir tard parce que c'est une enfant. Et voilà. Et effectivement, c'est ce qui éclaire dans la nuit, c'est la lune.
La dernière représentante aussi de cette culture-là, c'est sa maman. C'est un personnage qui est assez discret dans le roman, mais qui a quand même une place très importante. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette femme, nous faire le portrait de cette femme en quelques mots ?
Oui, je pense que ça fait partie de... Enfin, elle représente un peu toutes ces femmes qu'on regarde à peine, dont on n'imagine pas ce qu'elles pensent, si elles ont des rêves, qui sont toujours au service d'eux, au sacrifice d'eux, la famille, l'élément... le corps sur lequel tout le monde s'appuie et qui n'a pas de discours propre, a priori. Et pourtant, il y a quelque chose de très malin chez cette femme, c'est d'avoir, chez la maman d'Anna, c'est d'avoir un peu comme une résistante, d'avoir voulu garder sa langue. C'est ce que, voilà, les exilés, c'est ce qu'ils amènent, hein, c'est la cuisine et la langue. Et de vouloir la transmettre. Or, bah, la langue amazir est délaissée parce qu'il y a la petite boîte à merveilles, il y a la télé, qui est un peu la petite fenêtre par laquelle, alors, Anna regarde le monde. Mais par contre, c'est elle qui dit tout le temps, ça va aller, ça va aller. Les seuls mots de son dictionnaire intime sont ces mots-là, ça va aller, ça va aller.
Elle souffre aussi peut-être de la relation qu'Anna a avec son père, qui est beaucoup plus fusionnelle.
Oui, bah ce roman, c'est effectivement d'abord une histoire d'amour entre un père et sa fille, ou plutôt une fille vis-à-vis de son père aussi. Et puis il faut se souvenir que dans l'enfance, la mère représente un petit peu l'altérité ou celle qui vient se mettre entre cet amour intense.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Samira El Ayachi et son roman Le ventre des hommes. Et donc ce sillon entre l'héritage culturel de la famille et le monde qu'elle se construit va se creuser encore un peu plus quand Anna arrive en études supérieures. Elle qui était brillante à l'école, là, elle se prend une claque. Alors elle arrive en ville. Donc la ville, c'est quoi ? C'est Lille, la grosse ville du coin.
Chacun a sa grande ville, ouais.
Chacun a sa grande ville. Et elle se prend une claque, là. Pourquoi ?
Je pense que l'arrivée dans les études supérieures, c'est vraiment effectivement la claque. Donc, quand on vient d'un milieu populaire, quand on est issu de ce type de parcours, il y a une vraie différence entre celles et ceux qui vont rester dans les corons, qui vont rester dans la cité, et ceux qui vont faire l'expérience de l'altérité. Et Anna va découvrir que, ben non, tout le monde n'habite pas dans une petite maison des corons. Tout le monde ne joue pas dehors toute la journée, du soir au matin. Puis il y a même des gens qui ont chacun leur chambre. Enfin, c'est vraiment la découverte d'une autre réalité de la France et la découverte de l'injustice et des inégalités sociales.
Oui, il y a une sorte de déterminisme qui lui colle à la peau. Elle va découvrir le mot condition. Tout le monde la regarde comme si elle était une extraterrestre. Bah oui, enfin, tu es née quelque part et ça te colle à la peau. Elle comprend pas. Elle se prend toute la violence du monde à la figure. Et elle qui adore les livres, elle va redécouvrir un livre bien connu qui colle un peu à la peau de tous les enfants du Nord. C'est celui qui résume, ou plutôt celui auquel on résume les gens du bassin minier, c'est Germinal d'Émile Zola, grand écrivain français du 19e, qui avait la particularité d'écrire vrai. Germinal, c'est un mot qui revient donc souvent. Déjà, il y a un nombre incalculable de rues, de places qui s'appellent comme ça dans le bassin minier. Qu'est-ce que ça signifie pour Anna, ce mot, Germinal ?
Anna, on peut plus de Germinal. Elle en peut plus de Germinal, elle en peut plus de Zola. Elle rêve de traverser l'Atlantique et elle adore la musique nord-américaine. Voilà. Et puis surtout, elle est sans cesse renvoyée à ce milieu dont, naturellement, à l'adolescence, elle a envie de s'extraire parce qu'elle a envie de devenir un jeu, quitter le groupe, quitter le clan, devenir une entité, un être pensant pour soi. Et puis à chaque moment, elle est renvoyée à sa condition. Effectivement, elle découvre la violence de ce mot-là et à quel point le lieu de départ, son histoire de départ va la conditionner, va la dessiner, va construire son destin contre lesquelles elle va devoir grandir et se confronter.
Et qu'est-ce qui joue plus contre elle ? C'est son lieu de naissance ou c'est son nom de famille ? C'est un joli mix des deux.
Oui, bah, le c'est Tout est lié parce que le nom de famille qu'elle porte va conditionner l'endroit où sa famille va s'inscrire. Donc bon, il y a une réduction dès le point de départ dont on parlera certainement, mais qui fait que elle va habiter dans les corons, dans la cité minière telle et pas à un autre endroit.
Justement, vous qui avez grandi dans cet endroit-là, quelle partie du roman est autobiographique et quelle partie est pure fiction?
Belle question. Ça fait 10 ans que je porte ce roman, donc autant vous dire que il y a beaucoup de choses qui m'échappe et que j'ai découverte au fur et à mesure de l'écriture, c'est-à-dire que des scènes d'enfance revenaient, surgissent de je ne sais où, que j'avais complètement peut-être oublié moi-même, mais qui parviennent au moment où je me plonge. Il y a quelque chose de performatif dans l'écriture qui nous dépasse un peu, mais clairement, ce retour vers l'enfance, c'était l'occasion pour moi de revisiter une ambiance, une couleur, un territoire. Beaucoup plus que les faits, c'est plutôt voilà l'ambiance qui est très proche de ce que j'ai vécu moi-même.
On va continuer notre discussion dans quelques instants, mais d'abord le rappeur Rask va nous donner sa définition de Germinal.
Par chez moi c'est Germinal et on est tous en galère. On rêve de vie et de femme et de vivre au bord de la mer. Je suis petit fils de mineur et fils d'ouvrier. J'ai la folie des grands arrêts et je rêve de briller. Par chez moi c'est Germinal et on est tous en galère. On rêve de vie et de femme et de vivre au bord de la mer. Je suis petit fils de mineur et fils d'ouvrier. J'ai la folie des grands arrêts et je rêve de briller. Il paraît que tu connais pas les mille régions sponsor par Paul Rémy. Si y a pas de bling bling donc on se contente du RMI, taux de chômage élevé. Si ton majeur s'est levé, c'est que t'es un casson, c'est que toi aussi tes potes se font lever. À 6h du matin, si tes voisins se battent, si t'as l'habitude de voir débarquer les flics ou la PAC. À 14 piges, ça fait des gangs de scooters. Ça rêve déjà de baiser des filles, se font des gangbangs tout seul. Ici, c'est l'hiver toute l'année. Le ciel est gris, les oiseaux chantent, même si les fleurs sont fanées. Me fallait bien faire un tour, t'aurais vu que tu t'es gouré. Mes sols, la tienne debout, et même si les trois y'a même des gens qui donnent leur vie pour le stade Bola. Total jogging dans les chaussettes, tu craches des tas de mola. On fait des bêtises et on se crée des groupes de 10 pour faire le beau quand on se balade en ville, histoire de rester en vie. Par chez moi c'est Germinal et on est tous en galère. On rêve de vie et de femme et de vivre au bord de la mer. Je suis petit fils de mineur et fils d'ouvrier. J'ai la folie des grands airs et je rêve de briller. Par chez moi c'est Germinal et on est tous en galère. On rêve de vie et de femme et de vivre au bord de la mer. Je suis petit fils de mineur et fils d'ouvrier. J'ai la folie des grands airs et je rêve de briller.
Germinal du rappeur Rask sur RFI, un rappeur du Nord-Pas-de-Calais. Des paroles qu'aurait peut-être pu chanter aussi notre invitée du jour dans VMDN, Samira El Ayachi, autrice du roman Le Ventre des Hommes aux éditions de l'Aube. Cette terre noire de suie qui lui colle à la peau, c'est celle des mines, donc celle dans laquelle son père, Mohamed Khatib, a embarqué toute la famille. Alors il travaille à la fosse 4-5 Sud, à côté de Lens. Dans les houillères du Nord-Pas-de-Calais, c'est la société qui s'occupe de l'extraction du charbon. Il est ce qu'on appelle une gueule noire et chaque jour, il descend dans les entrailles de la terre pour récolter cet or noir au prix de sa santé. Nous sommes à la page 241 de votre roman.
Autour de nous, il y a le bruit des foreuses, des perforeuses, des marteaux-piqueurs. Il faut aussi s'y faire dans le noir. Il y a de la poussière. Faut s'y faire d'être aveugle et tout noir dans le noir. Si bien qu'on ne sait plus si Michel est arabe sous sa pellicule de charbon ou si Bachir qui a les dents blanches est polonais. On ne sait rien de tout ça et on n'a même pas le temps de se poser des questions parce qu'au fond du puits, on est tous égaux face à la mort. On doit veiller à sortir de là entier, à ne pas se faire embrasser la bouche par les lèvres du grisou. Cette silencieuse qui devient bleue quand elle danse devant une flamme. Il ne faut pas se laisser prendre dans ses bras incolores, inodores comme à Liévin. Il y en a plein qui sont tombés à Liévin. C'était la catastrophe. En 1974, l'année de mon arrivée, le 27 décembre, à la reprise après la trêve de Noël, la mine a faim. Elle bouffe de l'homme et des bras. L'exploitation ne s'arrête jamais. Elle a lieu 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, sauf à la Noël. Pour quelques heures, et ça fait du bien aux oreilles du terri que ça s'arrête. Un coup de grisou, Un coup de méthane à 6h30 du mat tue 42 hommes descendus dans la fosse. Mais il ne faut pas penser à tous ces problèmes. Il faut continuer, avancer, suivre la veine même si le corps est en pente. Quand bien même il n'y a plus beaucoup de charbon, mais il ne faut pas penser à tous ces problèmes. Il faut continuer, avancer, suivre la veine même si le corps est en pente. Quand bien même il n'y a plus beaucoup de charbon et que demain, ça fermera la mine. Il y a quelqu'un qui l'a lu dans le journal de la CGT. Il faut ramasser les pépites d'or tant qu'on est là, un maximum. Pour El Hajj, pour votre grand-père, pour Khalti Zohra, pour Sid Ahmed, pour l'école que je fais construire là-bas, pour tous ceux qui comptent pour moi et pour qui je compte en retour, chacun de mes pas sans savoir où ça va dans le noir. Il faut ramasser les pépites d'or, des pépites d'or noires, creuser, supporter, foudroyer et recommencer.
Une lettre, un texte en tout cas écrit par le père d'Anna, Mohamed Khatib, dans un cahier, un texte qu'il a écrit en arabe et qu'ensuite quelqu'un, je ne dirais pas qui, finit par traduire à Anna. Ce quotidien difficile, celui de son père, Anna, est-ce qu'elle s'en rendait compte quand elle était enfant? Parce qu'elle découvre ce texte adulte. Mais est-ce que ça, elle le savait, petite?
Non, elle vivait comme toutes les enfances du monde se vivent, c'est-à-dire très égoïstement pour soi. Le seul objectif d'un enfant, c'est de s'amuser et c'est d'avoir les parents à disposition pour leurs besoins. Et effectivement, c'est une histoire qu'elle découvre sur le tard et que moi-même, j'ai découverte sur le tard.
Mais qu'est-ce qu'elle pensait que son père faisait alors petite? Elle savait qu'il était mineur, mais elle avait peut-être pas réalisé ce que ça... Qu'est-ce que ça voulait dire?
C'est-à-dire que tout le monde était enfant ou petit-fils de mineur à l'époque, donc bon, c'était un métier qui était tout à fait courant. Et puis, dans l'imaginaire et dans le discours collectif, il y avait une telle glorification du travail de mineur qu'il y a quelque chose de la fierté. Ah, mon père est mineur, mais comme tous les enfants des corons, les parents étaient mineurs. Donc, elle savait le truc d'Anna, c'était d'attendre que son père rentre parce que parfois elle voyait qu'il travaillait tard le soir, qu'il travaillait de nuit et puis qu'il fallait pas trop faire de bruit, alors qu'elle voulait s'amuser et que le papa criait sur les enfants parce que voilà, lui voulait dormir la journée. Mais c'était impossible, donc c'était infernal pour le père.
Et qui toussait beaucoup. Et ça, c'est quelque chose de récurrent.
Oui, Anna pense, dit à un moment, elle comprend que, elle pense que son père va mourir parce qu'il arrête pas de fumer et qu'il tousse beaucoup. Et elle va le voir, on dit, mais papa, quand est-ce que tu vas mourir?
Alors, ce métier de mineur, Samira El Hayachi, il a beaucoup évolué depuis le 19e avec notamment la mécanisation et l'amélioration de certaines infrastructures. Mais pourtant, personne n'en veut vraiment. Alors, on va chercher des travailleurs ailleurs et ça commence par des prisonniers.
Ah oui, personne, après-guerre, personne ne veut travailler, on est dans les 30 glorieuses, personne ne veut plus aller à la mine, donc des prisonniers allemands aussi, sont allés chercher du charbon, et c'est quelque chose de très particulier, mais l'État va mettre en place un statut de mineur pour donner envie aux autres de venir travailler.
Qu'est-ce qui l'englobe, ce statut de mineur? À quoi il donne droit?
Alors, les houillères, donc ça appartient à l'État, c'est une entreprise publique, et y a le droit au logement, on est fonctionnaire, donc on a un travail à vie, entre autres, et puis il y a du charbon, des droits en nature, la scolarisation des enfants, le suivi médical, etc.
Et donc on va inciter des gens venus de Pologne, d'Italie et d'Algérie, dans cet ordre-là, je crois, à venir, et plus tard... Ensuite, dans les années 70, alors qu'à cette époque-là, le charbon n'a plus autant la cote qu'avant, en fait, et qu'il y en a de moins en moins, on sait qu'on est sur la fin du charbon et de l'exploitation, mais on a encore besoin de main-d'œuvre, et là, on va au Maroc. Pourquoi on a eu besoin de ramener cette main-d'œuvre supplémentaire, alors qu'on sait que c'est la fin?
C'est un scandale, et je pèse mes mots, mais c'est vrai que c'est un scandale jusqu'au plus haut sommet de l'État.
Là, on est dans les années 70.
Tout à fait. On sait pertinemment qu'il n'y a plus d'avenir dans le charbon, et que les mines vont fermer, que c'est plus rentable, il faut descendre trop bas pour aller en chercher, il faut préparer les autres énergies, le pétrole est là, le pétrole, le nucléaire, etc. Et pour préparer cette transition-là, on va faire appel à une main-d'œuvre flexible sur des contrats courts, 6 mois, 18 mois, et pour aller les chercher, toute une organisation est mise en place, et donc encore une fois, jusqu'au plus haut sommet de l'État, tout le monde est au courant de cette exception discriminante qui va être faite, et qui va consister à aller chercher clairement des bras, des hommes forts qui sont habitués au travail rude. Et il y a un lien qui est fait à l'époque avec avec le sud du Maroc, c'est-à-dire avec avec des hommes qui sont vaillants, qui sont courageux et qui vont être embauchés sur des contrats très courts pour travailler dans les mines de charbon et faire en sorte que des autres nationalités puissent être reconverties.
Et du coup, justement, derrière tout ça, il y a un homme, haut fonctionnaire français, qui s'appelle Félix Morat. On l'écoute.
Après que l'information ait été donnée dans les souks, dans les différents souks, les volontaires venaient et étaient donc ici arrêtés par un premier filtre. Ce filtre était composé de moi-même, où j'éliminais, d'entrée de jeu, si je puis dire, tous les gens qui étaient manifestement trop âgés, trop jeunes ou atteints de malformations. Ceux qui étaient admis venaient se ranger, et ce, j'ose le dire, par milliers, en attendant que nous procédions plus loin à une première présélection.
Le garçon qui se présentait, ben c'était du muscle, hein, puisque il n'y avait pas d'identité, il n'y avait pas d'entretien, c'était pas le but recherché, c'était du muscle.
Cette présélection permettait permettait de ne pas envoyer à Marrakech des gens qui manifestement auraient été inaptes. Quoi.
Alors je vous vois outré, Samir El Hachi, mais je pense que vous connaissez peut-être ce son d'archives. Ces hommes, donc, comme le père d'Anna, qui viennent du sud du Maroc, qui sont-ils d'abord et pourquoi est-ce qu'ils acceptent de partir ?
Ben, c'est là que je pense qu'il y a un premier malentendu. On dit que ces hommes-là partent parce qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils sont dans la misère. Or, c'est faux. Pour moi, j'ai travaillé ce roman en allant faire beaucoup d'entretiens avec ces hommes-là qui sont quand même très âgés maintenant et qui commencent à disparaître. Et puis, en échangeant avec eux, je me suis rendu compte qu'en fait, la raison de la misère et de la pauvreté là-bas, c'était la sécheresse. Qu'en réalité, ce sont des agriculteurs, ce sont des propriétaires terriens, contrairement à ce qu'on imagine. Ce sont pas des gens complètement démunis, il y a quelque chose de très fort et qui est très lié à la terre, et ils vont vivre, ils vont venir en France pour à cause de la sécheresse. Et pour moi, ce sont les premiers exilés climatiques. Et le grand paradoxe ou l'ironie, c'est qu'ils viennent travailler dans le charbon, qui accélère l'effet de serre et qui va renforcer. Enfin bref, on s'en sort pas.
Et alors, quand Félix Morat arrive sur place, il arrive à les convaincre. Est-ce qu'eux s'attendent à ce qu'ils vont vivre là-bas, ou est-ce qu'on leur a menti? Qu'est-ce qu'on leur promet pour les convaincre?
La promesse, c'est il faut se mettre dans la tête d'un homme de l'époque. La vision que l'homme du sud du Maroc, ou en général, a de la France, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la liberté, c'est l'endroit où on va pouvoir se construire, prendre son destin en main. Donc il y a un peu de ça. Et puis surtout, il n'y a pas vraiment de notion de plan, c'est-à-dire on va là où la vie nous mène. Bah voilà, c'est Mektoub, bah il y a quelqu'un qui arrive, bah moi je tente ma chance. Enfin voilà, il y a pas vraiment de volonté autre que si à vivre une expérience qui va permettre de gagner de l'argent, et puis mais sans vraiment de plan, je pense.
Sauf que quand ils arrivent là-bas, les ouvriers marocains, les derniers arrivés donc, ne sont pas traités comme les autres, comme les autres mineurs. Pourquoi ?
Effectivement, eux n'ont pas le statut comme les autres. Ce sont les seuls à ne pas avoir de statut de mineur. Ils ont des contrats qui font que si jamais l'un d'eux tombe malade, histoire qu'on m'a racontée, hein, un homme qui s'est coupé le doigt, il est renvoyé au pays. Enfin voilà, ça fait une main d'œuvre flexible qu'on peut prendre et puis embaucher quand on veut. Et il y a énormément de candidats, comme cette archive qu'on vient d'entendre. Tout le monde veut partir, enfin tout le monde veut tenter sa chance en tout cas.
Alors votre personnage principal, Anna, elle va se rendre au centre historique minier de Loward, c'est dans le département du Nord, juste à côté, mais toujours dans le bassin minier, pour se documenter. Alors c'est un endroit qui est assez connu des enfants qui grandissent dans le Nord-Pas-de-Calais, parce qu'on y fait tous au moins une sortie scolaire, c'est notre patrimoine local. Et là, elle se rend compte que le récit national, le récit des livres, n'a rien à voir avec celui de son père. Qu'est-ce qu'elle découvre ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Parce que je pense que ça...
Eh bien, tout simplement que quelqu'un ment. Soit les livres, soit ces hommes vivants qui racontent une autre version de l'histoire.
Et qui ment alors ?
C'est ça qui est beau, c'est qu'Anna a tellement investi le monde, le livre comme espace de vérité, que cette notion de trahison, elle a du mal à y croire. Et que finalement, ce sont les archives qui vont parler, ce sont ces documents-là. Mais elle va les confronter à la parole du père. Et il faut que Mohamed Kati parle à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il va écrire et il va dire l'histoire par lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le moment où l'exilé ou la personne qui vit une histoire comme celle-là la raconte. Il est auteur, locuteur de sa propre parole. Il n'est pas COD. Personne ne parle en son nom. C'est lui qui fait récit de sa propre histoire.
Et là, vous découvrez, vous aussi, comme Anna, qu'il y a un groupe de 3000 mineurs marocains qui se sont mis en grève, une histoire que je ne connaissais pas non plus et que je pense la plupart des gens qui grandissent dans le Nord ignorent. Qu'est-ce que c'est que cette grève ?
Tout d'abord, c'est vrai que c'est quelque chose de très très important qui m'a vraiment marquée. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé comme romancière, on me disait souvent « Mais alors, pourquoi vous êtes romancière ? Est-ce que ça vous vient de l'école ?» Et moi, j'étais persuadée intimement que ça me venait d'une autre histoire, mais je ne connaissais pas vraiment cette histoire-là. Quand j'ai commencé à faire des recherches et que je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes, une histoire dont je suis ici, qui avait fait la grève et qui s'était battu pour leurs droits, je me dis « C'est incroyable, on ne se construit pas de la même façon » quand d'un coup on se lève et on prend la parole dans l'espace public. Moi, je trouve ça très courageux qu'effectivement des hommes qui étaient recrutés avec un des critères de sélection était de ne pas maîtriser la langue française, puisqu'il ne fallait pas s'intégrer, comme ils sont, avec cette langue accidentée, avec la façon de dire le monde, vont dans l'espace public et surtout font preuve de démocratie, finalement.
Et ça, vous ne vous en étiez pas rendu compte quand vous étiez petite ? Puisque tout ça s'est passé.
Alors c'est fou ce qui se passe sous le nez de l'enfance. On voit rien du tout. Et puis après, rétrospectivement, on se retourne. Et puis on recoupe des informations. Et puis un peu comme Anna, le personnage de mon roman, effectivement, elle va dire cette phrase suivante et dire que je croyais que j'étais la bête enfant d'analphabète. On se construit pas pareil si on découvre, si on arrête d'avoir ce regard misérabiliste sur ces hommes et ces femmes qui en ont eu dans le ventre quand même pour traverser la Méditerranée et puis une fois ici se battre encore pour des droits fondamentaux. Et ben effectivement, on se construit pas pareil et on arrête de porter un regard condescendant sur ces histoires-là. On les regarde en tant qu'être, en tant qu'individu parlant, existant, apte à construire une parole qui peut être audible et qui est partageable et qui prend soin du collectif.
Ça, Anna, elle s'en rend compte aussi quand elle remonte dans ses corons. On va écouter un passage de votre livre. Là, elle est adulte, elle rentre chez elle. On est le 1er novembre, c'est le jour de son anniversaire.
Prendre la 1, partant de pluie, trois lignes droites qui mènent du nord vers Reims et Paris, les camions qui déboîtent sans prévenir, les ambulances qui poussent le cul de la voiture, les petites lumières rouges sur un sol noir tracé de bandes blanches et un ciel gris. On a l'impression d'être dans un tunnel en permanence. On a l'impression que le jour n'est jamais venu par ici, que personne ne l'a jamais vu. Personne n'a pensé à mettre un peu plus de bleu au-dessus de la tête des hommes et des femmes du Nord. La 1, partant de pluie, c'est une ligne droite, tracée dans l'infini. C'est aussi des grands magasins, Conforama, But, Cuir Center, que personne ne visite. Des panneaux jusqu'à moins 50% sur nos cuisines, des grues suspendues dans le vide qui donnent un peu de verticalité, ravissent le corps en manque de vertige. L'aire de repos est la station-service de Fallonpin, un lieu de pèlerinage, un lieu où les camionneurs viennent chercher un peu de réconfort. Un café lyophilisé avec de l'eau chaude, une autre eau chaude à la tomate façon minute soupe. Un oiseau noir fend le ciel de temps en temps. Des arbustes se laissent toucher par la pluie. Des panneaux rappellent qu'il ne faut pas dépasser les 90. Les vieilles diesels polluent l'atmosphère, accélèrent l'effet de serre. Avec à ma gauche le TGV, l'île Paris, qui fait la course avec nous nargue, impossible de rivaliser avec ses 320 km à l'heure. On restera toujours derrière, à la traîne. Bientôt, j'aperçois les chevalements et les petites maisons rouges. J'y arrive. Dans mes terres chaudes et boueuses, à la bonne odeur de café brûlé, dans mon bassin d'eau chaude, dans mon bassin minier, au loin, quelques éoliennes tournent dans le vide. Et puis derrière, ces collines noires immenses qu'on appelle terrils.
Alors, Alors là, Samira El Ayachi, vous avez énuméré tout le glamour de la 1. Mais c'est un peu une déclaration d'amour quand même au plat pays de Brel et les montagnes de charbon dont vous parlez également. Les terrils, on n'a pas encore prononcé ce mot, mais c'est effectivement ce qu'on aperçoit. Quand on les aperçoit sur l'autoroute, on sait qu'on est arrivé, quoi. Et ce sont donc ces monticules noirs qui sont formés à partir de rejets de l'extraction minière. Mais Anna, qui roule sur cette autoroute hein, en y arrivant, elle a un peu la boule au ventre, elle a un peu peur d'y retourner, comme si elle avait peur de plus être acceptée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé entre-temps ?
Anna, elle est en train de découvrir l'histoire de ce père. Et finalement, c'est aussi un moment où elle a commis un acte. Elle a commis un acte dans l'école. Elle est enseignante, Anna. Et elle a commis un acte qui fait qu'elle est conduite au commissariat. Et c'est un acte d'indocilité qu'elle a mené. Donc elle a très peur parce qu'elle est en train de récupérer une part de son histoire, un héritage d'indocilité qu'elle ne connaissait pas. Et elle essaie de comprendre comment elle en est arrivée là.
Elle se rend compte aussi que sa terre... Alors, vous avez cette phrase dans le livre que je vais lire. « Ça fait longtemps que je n'étais pas venue. J'étais en train de devenir une étrangère. Comment se remettre doucement du mépris qu'on a eu pour une partie de soi ?» Ça veut dire que à ce moment-là, elle a honte d'avoir détesté cet endroit. En fait, elle aime cette région grise.
Ces histoires ordinaires, universelles, de point de départ, d'arrivée, et puis un moment, on se retourne un peu sur son parcours, et puis effectivement, comme Anna, on a parfois un peu détesté l'endroit d'où on est né, parce que ce qui est intéressant, c'est l'ailleurs, c'est l'exotisme. On a tous envie d'exil. Donc elle est partie s'exiler dans la grande ville. Elle réalise que elle a beau partir loin et s'éloigner socialement de sa famille, finalement, c'est beaucoup plus profond. Il y a quelque chose qui la tient à cette terre-là. Et elle a besoin de comprendre, justement, qu'est-ce qui la tient à cette terre.
Et vous y retournez, vous, parfois?
Ah, très souvent. On y revient toujours. On est forcément déterminé par ces thèmes.
Et alors la fosse 4-5 Sud, justement, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?
Ah bah écoutez, les mines ont fermé en 1991, ça a été un grand moment pour l'histoire de la France. On parle quand même de 250 ans d'extraction de houillère, d'un or noir qui a fourni de l'énergie au pays. On parle donc, ça a concerné plusieurs générations, vous voyez, ça veut dire que dans l'histoire d'une famille, ça marque, ça marque profondément. Et puis elle fait ce lien entre le terri et les montagnes de l'Atlas, d'où elle est arrivée, puisque c'est aussi des montagnes noires en fait. C'est ça qui est incroyable.
Merci beaucoup Samira El Ayachi d'être venue nous parler du ventre des hommes, votre roman paru aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Amélie.
Un livre que vous pouvez tenter de gagner chez vous en répondant à la question suivante. Quelle équipe de football déchaîne les passions du bassin minier dans lequel a grandi le personnage principal? Un indice qu'on va écouter avant de se quitter pour une escale au Japon, une chanson que vous connaissez bien, Samira El Ayachi, une chanson qui résonne dans le stade de ce club à chaque mi-temps et qui ne manquera pas d'émouvoir les anciennes gueules noires et leurs enfants.
Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Oh, c'était les corons, la terre, c'était le charbon. C'était l'horizon, et les hommes des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh non. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose.
Les Corons, chanson de Pierre Bachelet dans VMDN sur RFI. On s'envole loin du nord de la France. On part pour le Japon qui est à l'honneur en ce moment à Paris, à la Maison Européenne de la Photographie, la MEP. On y trouve une double exposition consacrée à deux grands maîtres de la photographie japonaise de l'après-guerre, Daido Moriyama et Shomei Tomatsu. Mais au premier étage, place à la nouvelle génération avec Marie Katayama, une photographe aussi plasticienne. Découvrons ses œuvres avec Fanny Blechner.
Elle est au centre de ses photos, regard posé sur le spectateur, visage dénué d'émotion. Autour d'elle, une multitude d'objets, des sortes de poupées de tissu dans les tons pâles, de membres faits d'étoffe, des guirlandes aussi. Ce pourrait être un tableau. Dans ce champ photographique, chaque composant revêt une dimension artistique, voire artisanale, car Marie Katayama est aussi plasticienne, nous explique Simon Baker, le directeur de la MEP et co-commissaire de l'exposition.
En fait, elle a organisé tous ces objets autour d'elle. Et normalement, le travail, ça termine avec une photo dans laquelle elle s'est mise parmi les objets qu'elle a créés elle-même.
Une façon de repenser l'autoportrait, mais aussi de mettre en scène son corps. Un corps un peu particulier, car Marie Katayama souffre d'une maladie osseuse qui l'ont conduite à se faire amputer des deux jambes quand elle était enfant. C'est aussi de là qu'est née sa pratique artistique.
Sa famille, sa mère et sa grand-mère, elle a fabriqué les vêtements sur mesure. Elle a vraiment grandi avec la couture. Et je pense que c'est à partir de ça qu'elle a commencé de faire ses propres objets, comme une sorte de sculpture, un peu dans la tradition de Louise Bourgeois ou Kusama.
Elle façonne ainsi toutes sortes d'objets qui résonnent avec les particularités de son corps. Ainsi, sur une autre photo, ses jambes sont remplacées par des prothèses de tissu faites à partir d'un agrandissement photographique d'une de ses mains où elle n'a que deux doigts.
Et en fait, elle a joué avec cette idée de remplacer une partie de sa corps avec un objet qu'elle a créé elle-même.
Marie Katayama propose ainsi un nouveau regard sur les corps.
Et surtout au Japon, c'est une sorte de honte d'exposer un corps qui ne conforme pas aux normes. Ce n'est pas un travail qui parle d'être handicapé. En effet, c'est juste de montrer sa corps parce qu'effectivement, avec tout ce qu'elle fait à la main, elle n'est pas du tout handicapée.
Posant parfois en sous-vêtements ou avec des prothèses à talons, la féminité est également interrogée ici. Et puis si ses premières photos étaient prises dans son appartement, elle s'est peu à peu émancipée de ses quatre murs pour des photos en extérieur, comme sur l'île de Naoshima où elle était en résidence.
Elle a travaillé avec les habitants qui sont très vieux. Elle a photographié leurs mains. Elle a créé les objets, un peu comme les vêtements, les sculptures avec les images photographique rendue sur du tissu, où elle a créé un sort de jupe, on peut dire, à partir des bras et des mains des habitants, pour montrer un peu ses relations émotionnelles et physiques avec l'environnement.
Une véritable démarche politique, car la beauté de cette île, très polluée, a été repensée, réinvestie par plusieurs artistes, tout comme Marie Katayama le fait dans sa nouvelle série intitulée Underwater. Des photos grand format, en gros plan, la forme inhabituelle de ses membres, sa peau dévoilant cicatrices et rougeurs, recouverte de paillettes dorées, une ambiance onirique.
C'est un peu comme un sort de corail ou quelque chose un peu qui se trompe entre le côté corporel et naturel.
Une nouvelle façon d'envisager son corps liée au fait que l'artiste est récemment devenu mère et qu'il utilise
beaucoup moins des mises en scène, beaucoup moins de théâtre, des installations construites et beaucoup plus naturel. C'est parce que peut-être, avec la naissance de sa fille, il existe quelqu'un dans le monde qui regarde pas sa corps comme quelque chose atypique, et que sa fille elle regarde comme sa mère, comme le premier corps qu'elle a vu dans sa vie, comme quelque chose de natural.
Une leçon aussi à retenir pour les visiteurs.
L'exposition Home Again à la Maison Européenne de la Photo à Paris, c'est jusqu'au 24 octobre. Demain, dans VMDN, nous recevrons le rappeur Drix qui viendra pirater le cœur de nos auditrices avec son nouvel album Hacker. À vendredi, même heure, sur RFI.